genèveactive.ch.
Quel a été votre désir de départ pour Black Swan?
Bon, après ma pièce précédente, Text to Speech, qui était une pièce assez concrète, avec un texte lu par les ordinateurs, un contenu assez politique, une certaine narratif, c'est pas vraiment le mot, mais enfin disons qu'il y avait comme il y avait du texte, il y avait un sens, le mouvement s'est retrouvé déchargé du sens. Et ça m'a beaucoup intéressé, en fait, puisque pour moi, la problématique est de trouver le sens au mouvement. Donc de me retrouver, d'avoir déplacé le sens ailleurs et de trouver le mouvement sans responsabilité du sens, je me suis dit, ben voilà une piste qui m'intéresse maintenant d'explorer et de me lancer directement dans l'exploration du mouvement sans chercher trop loin ou de par avance, disons, la signification du mouvement. Donc je suis parti vraiment sur une écriture chorégraphique très précise, en travaillant chronologiquement, mouvement après mouvement, et en m'imposant de jamais répéter deux fois le même mouvement, enfin jamais trois fois le même mouvement, pas de système de boucle et de répétition, donc de vraiment écrire une chorégraphie comme une calligraphie. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. De commencer par un solo, puis d'ajouter un autre solo qui s'entremêlait avec le duo. Puis ensuite, la création a démarré. C'est au cours de répétition que tout d'un coup les nouvelles choses se sont amenées. Il y avait aussi cette idée de mettre un personnage, ces deux personnages masculins qui sont comme on retrouve un peu dans le théâtre japonais traditionnel, dans le kabuki, qui sont des espèces d'assistants des acteurs et qui fonctionnent en fait par soutien pour des changements de costume, où ils amènent des éléments, des accessoires. Ce qui est intéressant, c'est que pour le public japonais, ils n'existent pas, c'est-à-dire qu'ils sont une convention théâtrale au même titre que pour nous une coulisse, hein, du théâtre à l'italienne. L'acteur disparaît derrière la coulisse et il disparaît de notre monde, alors qu'on sait très bien qu'il est là derrière le rideau en train de se rafraîchir ou d'attendre, hein. Donc le japonais a vu, fait abstraction en fait de cet être-là. Moi, je trouvais très intéressant au niveau de la qualité du mouvement, puisqu'il y a une intention tout à fait particulière de ce mouvement pour se mettre à disposition de l'action principale. On trouve ça aussi dans le théâtre de marionnettes japonais, où ils sont trois toujours à manipuler.
Ce qu'il en est par rapport au titre Black Swan, qui fait référence notamment à Karl Popper, théorie sur l'improbabilité, les modèles mathématiques pour la création chorégraphique, ou en tout cas comme embrayeur d'imaginaire, on retrouvait ça dans Under Construction avec Greg Reynolds et la notion des balls, des nuées. Effectivement, ici, qu'en est-il par rapport à Karl Popper?
Bon, là, c'est pas tellement le principe mathématique, c'est plutôt le principe philosophique. C'est-à-dire, lui, il a dit, tous les signes sont blancs. On disait tous les signes sont blancs. Et lui, il a dit, un jour, on a découvert un signe noir en Australie, en 1800 quelque chose. Donc, la théorie qui voulait dire tous les signes sont blancs n'était plus valable d'un coup, simplement parce qu'un type avait découvert un signe noir. Popper a dit, on ne peut pas mettre en place des théories si on n'envisage pas la possibilité du signe noir. Ce principe du signe noir était élargi encore par Taleb, qui est un auteur libanais, américano-libanais, qui est un économiste, c'est un mathématicien, mais qui a travaillé beaucoup dans l'économie comme trader, et qui lui élargit le concept de Black Swan à un événement de grande magnitude, totalement imprévisible, et dont on cherche par la suite à trouver des explications. Alors on est en fait, c'est-à-dire que dans nos prévisions, dans notre manière de concevoir le monde, on veut tout contrôler et on n'envisage jamais la possibilité du Black Swan, le crack économique récent, Internet. Enfin, il y a plein de choses qui sont qu'on peut considérer comme étant des Black Swan. Évidemment, ça peut être aussi une maladie soudaine chez quelqu'un en tout à fait bonne santé. C'est-à-dire ces espèces de choses qui sont tout à fait imprévisibles. Et comment est-ce que nous, on peut vivre avec l'imprévisible et rendre l'imprévisible non pas prévisible, mais favorable à notre développement. c'est-à-dire de se rendre ouvert à des événements imprévus. Donc c'est toujours une relation existentielle de se dire mais qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là et comment est-ce qu'on fait pour fonctionner avec tout ce qui se passe autour de nous. Aussi, j'imagine que ça m'a libéré puisque le sens est finalement très, très vague et c'est plus l'effet sur soi-même, c'est-à-dire l'effet que ça fait de comprendre cette théorie-là, d'intégrer cette théorie-là, et ce qui fait qu'on peut aussi rentrer dans des mondes qui deviennent des mondes parallèles et qui sont plus forcément avec une logique de prévision. Il y a aussi les lectures de Murakami, l'auteur japonais, qui a une capacité étonnante à rentrer et sortir de la réalité du réel et de l'irréel. Et l'irréel est traité comme le réel, et avec toujours un personnage assez tranquille qui ne s'étonne pas d'événements irréels. Donc une espèce de frontière avec la réalité, au niveau d'une subjectivité. Voilà, c'est ça qui m'intéressait en fait. On est dans une logique onirique, c'est-à-dire ce sont des choses qui apparaissent, mais qui sont pas forcément, qui n'ont pas la logique qu'on aurait, la logique de tous les jours, ou une logique, disons, intellectuelle ou conceptuelle.
Cette collaboration avec Christian Fugel, est-ce qu'on peut en parler ici, puisqu'il y a plusieurs atmosphères sonores relativement différentes, hein. On démarre avec des tintinambulements masseries tibétaines ou ailleurs, après on part vraiment dans des choses beaucoup plus planantes, beaucoup plus atmosphériques. Comment est-ce que vous avez travaillé avec lui, puisque c'est déjà, je crois, la troisième ou la collaboration avec Christian Fugel?
Ouais, là je pense qu'on en est à 4-5. Pièce, parce qu'il y a 2003, il y a eu Delicado, il y a eu Steakhouse, Double 2 et Black Swan. Donc ça fait 5. Comment dire, Christian, c'est quelqu'un qui est très fort, d'abord avec ses machines, avec son monde musical. Il a une force de proposition musicale assez structurée. En même temps, il travaille avec des algorithmes. Donc c'est vraiment de la musique qui se génère d'elle-même. Par rapport à certains prédispositions qu'il a mis en place, c'est toujours assez provocateur, c'est stimulant pour moi. La musique, elle se développe en parallèle, elle n'est pas plaquée sur le mouvement. On essaie de pas trop, j'essaie d'éviter l'illustration tant que possible. C'est pas toujours possible, on tombe des fois dedans quand même. C'est quelqu'un que maintenant, par exemple, sur un prochain projet, j'ai envie de l'intégrer dès le départ, vraiment, qu'il soit beaucoup présent, d'accompagner beaucoup plus. De le laisser vraiment amener des impulses. Il m'a même parlé de systèmes musicaux qui pourraient être des systèmes chorégraphiques, c'est-à-dire comment lui compose ses musiques et les langages informatiques qu'il utilise pour décrire des événements musicaux. Il me propose de moi aussi comprendre comment moi je peux décrire des événements, écrire dans le même type de langage des événements chorégraphiques. Alors, je sais pas si on va aller jusque là, mais disons que c'est, il y a une de plus en plus une symbiose en fait, mais je pense, comme je l'avais avec Franz Treichler sur les pièces précédentes, où on était vraiment de plus en plus en phase, de plus en plus, tellement qu'à un moment donné, bon, on s'est dit, bon, maintenant ça y est, il est temps de passer à autre chose, puisqu'il faut qu'on évolue et l'un et l'autre, si on commence à se répéter. Avec Christian, pour le moment, on est encore en phase de développement, je crois.
Alors il y a ce moment assez impressionnant avec ces deux bâtons, encore deux dernières petites choses. Donc c'est cette danseuse d'origine ibérique qui les manipule. Alors on sait que dans une autre chorégraphie, il y avait cet aspect de persistance rétinienne avec des petits cliquetis de lumière. Ici au départ, on se dit tiens, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est des rubans de rubalise comme ça avec des éclairages dessus ? Et puis on découvre progressivement que ce sont de ces longues gaffes, piques. Qu'est-ce que ça apportait justement à la qualité du mouvement ? Parce qu'il y a une extrême douceur, c'est comme si le corps s'hybridait de l'espace alentour, et puis en même temps vous-même vous êtes derrière, et là on peut retrouver quelque chose du corps marionnettique ou de la manipulation avec le danseur que vous êtes à l'arrière avec deux pics et puis la danseuse sur le devant, donc ça fait 4. Il y a effectivement, après on forme des arcs de cercle. Comment est-ce que vous avez travaillé avec ces éléments, justement avec ces bâtons?
Ça, c'est des choses qui sont arrivées de manière assez simple et assez naturelle. J'avais toute cette idée j'avais des animaux qui étaient suspendus à ces bâtons. Je voulais des espèces de décors, tenir des personnages, des animaux surtout, autour des mouvements. Donc, ils flottaient dans l'air. On a essayé toutes sortes de possibilités différentes. Puis, ces bâtons étaient là. Et puis, J'aimais bien tout le jeu des lignes, le mouvement, et puis le son aussi qui provoque. Et puis, on a cette espèce d'extension un peu... il y a quelque chose un peu du super-héros. De nouveau, on est dans des esthétiques qui sont de l'ordre de l'irréel, parce que ça n'a absolument aucune utilité, ça ne sert à rien d'autre que fabriquer du mouvement. Le rapport entre les deux, bon, il y a ce côté un petit peu marionnettiste, mais je dirais que même pas tant que ça, c'est presque plus étrange que ça. Donc la relation entre les deux, elle est devant, moi je suis de dos derrière elle, donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait ensemble, mais on est ensemble quand même. Elle est en bleu, moi je suis en noir. Donc elle est vraiment mise en avant, moi je suis plus en retrait, mais bon, en même temps, on voit mon visage, on voit mes mains, on voit mes pieds, donc je suis bien là. C'est la scène, je dirais, presque la plus naturelle qui est arrivée comme ça, qui n'a pas demandé une énorme résolution, en fait. Il y a eu toutes sortes de tentatives en prenant par plein d'autres bouts différents qui ne fonctionnaient pas, et puis c'est là, tout d'un coup, ça s'est fait. Même, il y a même une espèce de légère incohérence dans le fait que Susanna danse, et puis ensuite elle ressort et elle revient, et je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. Et en fait, il n'y a pas de problème. Ça crée justement ces noirs et ces espèces de moments de vide, d'attente, qui en relance avec la même personne. En fait, ces espèces de décalage fonctionnent. J'ai l'impression que ça fonctionne dans l'esprit du spectateur parce qu'il se laisse emmener, en fait.
Alors, se laisser emmener, c'est peut-être aussi, c'est pas nécessairement la seule lecture, mais c'est vrai qu'il y a un choix de juste au corps avec des lignes très près du corps, avec des couleurs très contrastées qu'on retrouve beaucoup chez Cunningham notamment, mais aussi chez certains de ses émules comme Foufoi d'Immobilité. Donc il y a une manière quand même de citer le corps historiquement, y compris au niveau des gestes d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il en était justement de rapatrier peut-être, je sais pas, une forme de néoclassicisme contemporain dans cette pièce, ou comment vous le voyez justement?
Bon, néoclassicisme, je n'utiliserai pas ce terme, postmodernisme peut-être. Oui, bon, mais il y a des héritages. Enfin, pour moi, Cunningham, ça reste le plus grand de tous, quoi. Peut-être pas au niveau de ses costumes, parce que j'ai jamais trouvé qu'il avait très bon goût dans le choix de ses costumes. C'est pas important, puisque la structure chorégraphique a toujours été tellement solide que finalement le costume, c'était qu'une anecdote. J'ai pas cherché à trop situer, quoi, en fait, mes choix par rapport à une histoire, ou par rapport à une histoire de la danse, ou une histoire de l'art. Ou je me suis dit, mais finalement, je fais ce qui me semble être nécessaire de faire avec l'emballage. C'est moi qui fais les choix des costumes, de laisser les choses se faire comme ça fonctionnait, par des couleurs. J'avais envie qu'on voit les corps. Moi, j'ai fait le choix, par exemple, moi je suis en collant, et j'ai déjà un costume très très collé au corps. C'est pas le cas de l'autre garçon. Susanna a un costume très collé au corps, mais il dure moins. Finalement, c'est assez libre dans le choix des couleurs, dans l'assemblage des éléments. Mais je pense que je me suis laissé rêver. En fait, je me suis laissé rêvasser et peut-être revisiter des ambiances qui me plaisent, mais sans me mettre ni en hommage, ni en rejet, ni contre, ni pour, ni en essayant de me laisser aller. J'espère sans chercher à séduire non plus. Donc voilà, en ce moment, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire quelque chose de simple, j'ai envie de faire une pièce plus raisonnable en termes de dimension de plateau, en termes de nombre de danseurs. Retrouver aussi des salles de taille plus réduite, d'être plus proche des spectateurs, quelque chose de plus tendre, en fait. Par rapport à une pièce comme Text to Speech, qui quand même aborde des thèmes relativement durs, même si c'est décalé, un peu cynique, mais comme Rain Dance, c'est des pièces qui tapent quand même...
L'aspect duo, juste deux dernières choses, concernant à un moment donné, donc, votre acolyte, entre guillemets, enfin, l'autre danseur masculin et cette interprète suédoise, à un moment donné, donc, il y a un duo...
Islandaise.
Donc, il y a ce duo où ils prennent appui l'un et l'autre sur le corps, sur l'anatomie, respectivement, du comparse. Qu'est-ce qu'il en était sur ce mouvement?
Bon, en fait, c'est l'une contre l'un, puisque lui est le soutien d'elle. Lui, il s'efface pour elle, c'est-à-dire il se met à la disposition de son travail. Donc, il la met en valeur, il lui offre des soutiens, et lui permet de réaliser certains mouvements qu'elle ne pourrait pas faire sans lui. Donc, c'est tout simplement c'est ça, le jeu, il est là, et son intervention, ça n'a pas été facile à concevoir. Ça n'a pas été facile pour lui aussi, Gabor, c'est un danseur hongrois, ça n'a pas été facile pour lui de comprendre forcément tout de suite ce que je souhaitais, ce que je voulais d'arriver à s'effacer en tant qu'interprète pour ressurgir en fait beaucoup mieux après. Donc il y a eu un temps où il était plutôt retenu, il se sentait contenu, mais ensuite il a compris après que quand il arrivait à se mettre complètement à disposition du mouvement de la fille, il réapparaissait d'une manière beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante que s'il était en représentation de lui-même. Donc c'était, il y a tout un jeu de balance en fait entre elle qui continue avec la même qualité qu'elle avait depuis le début de la pièce. Et comment dire, je pense que c'est effectivement très japonais, comme les japonais, comme le serveur japonais qui s'agenouille pour prendre la commande, et c'est pas du tout, c'est pas de l'humilité, c'est pas de la domination de la part de celui qui va commander, c'est simplement pour se mettre au même niveau. C'est pas ce garçon de café parisien qui regarde dans dessus et qui prend des notes et qui regarde par-dessus l'épaule du client. Donc il y a une mise à disposition de son être à la fonction. Donc et ça je trouve que dans la culture japonaise, c'est tout à fait asiatique en général, mais je pense particulièrement au Japon, c'est fascinant, et je trouve qu'au niveau de c'est-à-dire, c'est comme si j'avais trouvé, en allant au Japon, des éléments qui me disaient, mais moi, je travaille déjà comme ça, je suis là-dedans complètement, dans la mise à disposition du corps. Le corps se met à disposition du projet. Et donc, c'était ce type de... Parce que je trouve qu'une fois que le corps a mis à disposition du projet, il devient beaucoup plus fort. Et l'intention et l'intérêt de le regarder beaucoup plus fort. La serveuse japonaise qui s'agenouille, c'est un geste qui est une puissance, une beauté, une générosité, une humilité, mais bien comprise, de la part de l'un et de l'autre. Et ça, c'est des choses qui, moi, me touchent beaucoup. Et dans la danse, et je pense que ça, c'est un des acquis peut-être, alors justement, du post-moderne et de quelqu'un comme Cunningham, puisqu'il est décédé il n'y a pas longtemps, donc on peut en parler, où il a vraiment mis le corps du danseur à la disposition de la chorégraphie. Et il a complètement enlevé le côté interprète, au sens où on l'entend habituellement, soit l'interprète dans ce théâtre, soit l'interprète, le danseur qui brille par sa virtuosité. Alors qu'évidemment, c'est des danseurs extraordinairement virtuoses chez Cunningham, mais ils ressurgissent d'une autre manière. Et ça, je crois que c'était complètement nouveau. Et c'est quelque chose que parfois on a un petit peu oublié, qu'on retrouve dans certaines danses dites conceptuelles, où on est beaucoup plus alors dans une espèce d'exposition du corps tel qu'il est dans sa réalité quotidienne. Tandis que là, on est quand même dans de la danse, donc on est vraiment en train de danser, donc il y a vraiment des mouvements, il y a des lignes, il y a des énergies, il y a une rythmique. Il faut trouver comment être au plus juste et au plus naturel, au plus près du corps et plus au service du projet. Tout l'enjeu, en fait, il était là.
genèveactive.ch